This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
Mando na Rádio Globo.
From CNN Radio 7.
Na Rádio Dasha.
O Brasil quer se quinto.
Turquia, fotora, Slava, Rússia.
Bonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en Syrie avec Eric Valmire, au Maroc avec Dominique André. Reportage dans les coulisses d'une coproduction Paris-Broadway, un Américain à Paris, en comédie musicale. Stéphane Capron nous dira tout dans quelques instants. À 18h55, comme tous les vendredis, une histoire dans le monde avec Anthony Bélanger, qui nous parlera ce soir de la régularisation massive de sans-papiers annoncée par Barack Obama. Mais tout de suite, dans une émission, vous l'entendez, ce soir très américaine, On the Road, sur la route.
France Inter. Un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Un camping-car, une romancière, un photographe, leurs quatre enfants, partis pendant un an sur les routes des États-Unis, à la rencontre de 26 écrivains, interrogés, photographiés chez eux, dans leur ville, leur contexte, leur monde le plus intime. Richard Ford, John Edgar Wideman, Russell Banks, Dennis Lehane, George Pelicanos, pardon. Voici quelques-uns des noms que l'on croise dans ce livre étonnant. L'Amérique des écrivains, road trip chez Robert Laffont. Bonsoir Pauline Guéna.
Bonsoir.
Vous êtes la romancière. Bonsoir Guillaume Binet.
Bonsoir.
Vous êtes le photographe.
Ouais.
Et où sont les quatre enfants ?
À la maison.
À la maison. Mais dites-moi, ils ne sont pas allés à l'école pendant un an ?
Non, ils sont allés ils ont fait un peu de CNED, un peu de travail. Ben, ils se sont bien débrouillés, ils ont fait ça tout seuls.
Ils bossaient dans le camping-car. Ben,
ouais. Beaucoup de géographie,
voilà,
d'histoire des États-Unis,
ouais.
Et de rencontres.
Et c'était facile de travailler avec eux parce que vous avez quand même bossé pendant un an. Vous n'avez pas fait que rouler ni faire du tourisme, hein, loin de là.
Ils ont été fabuleux parce que d'abord, on a fait beaucoup de voitures quand même, enfin ouais. De camping-cars. Et ils ont réussi à se prendre en main. Et puis oui, on a travaillé un peu ensemble aussi autour d'une table au milieu de la nature. Mmh.
C'est eux qu'on voit en photo parfois, dans certaines images ?
C'est tout à fait eux qu'on voit dans certaines images parce que on a eu la chance de passer un an avec eux 24 heures sur 24. Mmh. Et donc c'est vrai que... on devait préparer les interviews, photographier par-dessus leur épaule de temps en temps. Et puis, de temps en temps, ils étaient dans les images.
C'est un projet familial ou artistique au départ ?
C'est le mariage entre un projet artistique et un projet familial. Guillaume est photographe, il part souvent en reportage et on voulait faire quelque chose tous les deux et en famille.
Et vous, la romancière, vous vouliez faire quoi alors ?
Et moi, je voulais faire un voyage de formation, aller rencontrer les auteurs que j'aime et leur poser des questions.
Ça suffisait plus de lire les grands romanciers américains, vous vouliez autre chose ?
Parfois, on a envie de savoir. On a envie de savoir. En fait, on fait tous face aux mêmes difficultés et on a envie de savoir comment les autres ont trouvé des solutions.
Alors, ouais, on va suivre le chemin avec vous. Le livre s'ouvre par une carte. Décrivez-nous rapidement l'immense rectangle que vous avez fait, 40 000 kilomètres. Guillaume.
40 000 kilomètres qui partent du Canada francophone, Toronto, Boston. Ensuite, on descend en Floride et on retraverse vers San Diego. On remonte vers Portland et on retraverse au nord en traversant notamment le Montana pour rejoindre Toronto. Donc voilà, 40 000 kilomètres.
40 000 kilomètres donc, qui épousent les bords extérieurs, on va dire quasiment parfaitement, de ce gigantesque pays que sont les États-Unis. Quelles ont été les grandes rencontres ?
En fait, elles ont toutes été vraiment, vraiment fortes, mais on a rencontré... Ernest J. Gaines, qui est un vieil écrivain de Louisiane, qui a racheté. Il est né dans une plantation. Il ramassait des patates et la canne à sucre dans les champs jusqu'à l'âge de 8 ans. Il vivait dans les quartiers qui avaient été les quartiers des esclaves. Donc, c'est tout un pan de l'histoire américaine. Et une fois qu'il a eu du succès et qu'il a gagné suffisamment d'argent, il a racheté un bout de la plantation. Il s'est fait construire une maison totalement moderne. Mais à côté, il y a l'ancienne demeure qui tombe en ruine avec l'escalier, l'énorme véranda qui s'écroule, engloutie sous la végétation. Et il a fait transplanter la chapelle dans laquelle il avait été à l'école. Tous les Noirs de la plantation se réunissaient pour payer un instituteur 6 mois par an aux enfants de la plantation. Et lui, c'est comme ça qu'il a progressé. Et surtout, tout au bout, de l'autre côté des champs de canne à sucre, il y a un cimetière dans lesquelles on voit des tombes qui datent de l'esclavage et qu'il entretient, enfin lui et sa femme, ils l'entretiennent à leurs propres frais. Bon, ça, par exemple, c'est une rencontre complètement inoubliable. Ils nous ont invités à manger un gombo.
Un gombo, ouais, ça c'est voilà. Merveilleux. Et alors, comment s'articuler le travail d'interview, d'entretien au long cours? Ce sont des entretiens au très long cours que vous avez avec tous ces écrivains et le travail photographique que vous deviez faire?
Alors, on arrivait, il faut imaginer...
Pauline Guénard rigole, donc on imagine que ça ne devait pas être simple.
Non, il faut imaginer un camping-car, quatre enfants, nous deux arrivant comme ça devant des
une horde sauvage.
Voilà, une horde sauvage, en français en plus. C'est peut-être pour ça qu'ils nous ont accordé autant de temps, ils ne comprenaient pas très bien ce qu'on faisait. Et donc, on déposait Pauline, parce qu'il n'était pas question que les enfants puissent rester, en tout cas pendant les entretiens. Et moi, je partais alors ou dans la campagne environnante, ou à la bibliothèque, parce que on a quand même subi des moins 25 degrés. Et ensuite, une fois que Pauline avait épuisé ses auteurs, je me repointais avec les enfants. Là, c'était la nouvelle déferlante. Et j'essayais de m'isoler quelques minutes avec eux pour les prendre en photo et les un peu au dépourvu, finalement. Parce que,
C'est chez lequel des écrivains que vous rencontrez que l'un de vos enfants a vomi
C'est chez Richard Ford. Alors
voilà,
ça tombait tellement mal. On avait lu que Richard Ford n'aime pas les enfants, ne souhaite pas fréquenter les enfants de ses amis, n'a pas d'enfants, n'en veut pas, etc. Donc on avait briefé nos enfants, on s'était organisé pour que
énorme
jamais ils ne les
aperçoivent.
Exactement, on ouvre la porte de la voiture et voilà. Mais en fait, ils ont été géniaux, lui et sa femme, ils ont accueilli les enfants.
Et alors, à lui, Pauline Guénard, vous lui posez la question qu'on retrouve quasiment dans chacun de ses entretiens. Qu'est-ce qu'un grand écrivain américain? Qu'est-ce qu'un un écrivain américain? Qu'est-ce qu'être écrivain américain? Il vous répond, ça c'est vraiment une question de français.
De français, c'est vrai.
Ouais, mais elle n'est pas si bête que ça, cette question de français en même temps.
Non, mais moi j'ai eu l'impression qu'en fait il y a un écrivain, le profil type de l'écrivain américain, ça existe. Et en fait je pense que c'est dans une approche complètement différente de l'approche française de la création. Une approche plus pragmatique qui s'appuie sur le travail et une pudeur à parler d'inspiration ou de... Voilà.
Ils parlent tous, c'est vrai, de la somme fabuleuse de travail en amont de l'écriture du livre, dans une démarche qui est plutôt celle des écrivains naturalistes ou réalistes français du 19e siècle. Tous ont, je pense à Pelecanos notamment, qui dit, moi je me mets à ma table de travail, j'ai plus besoin de sortir parce que je sais tout de l'univers social dans lequel je vais inscrire mon intrigue.
Ouais,
c'est des bosseurs. Hein.
C'est des énormes bosseurs, mais cela dit, je pense que les écrivains français travaillent aussi. Mais ils ont l'intuition, ou plutôt la conviction, que ça passera par le travail, par la régularité, par la rigueur, etc., et que ça viendra jamais par magie, même si, en fait, au cours des interviews, ils finissent tous par évoquer la petite magie, ce qui fait que ce qu'ils écrivent sera si bien.
Vous posez très souvent la question de la retouche, de la relation avec les agents, de la question des relations avec les éditeurs.
Ça m'intéressait parce que pour le coup, c'est complètement différent le système éditorial américain.
Alors expliquez-nous.
Je crois que c'est Russell Banks. C'est Russell Banks qui dit que le système éditorial français est très paternaliste. En fait, moi, j'y allais en voyant les agents comme le diable, plus ou moins. En fait, j'ai découvert que ça fonctionne quand même d'une manière plus subtile que ça.
Et donc, les agents ont la charge de défendre les intérêts des écrivains.
Des écrivains, voilà. Et alors, ils en sont venus au point que les éditeurs sont seulement perçus comme la personne qui achète le livre et qui veut acheter un livre, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à gérer pour un éditeur en termes de promotion, etc. Ils veulent acheter un livre clé en main. Donc finalement, l'interlocuteur de l'écrivain, l'interlocuteur avec lequel il reste toute sa carrière, c'est l'agent et c'est avec lui qui travaille le texte, etc. Et ensuite, c'est lui qui monte au créneau pour leur dégoter plus d'argent et donc plus de...
Donc l'écrivain américain est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se pose beaucoup la question du lecteur et qui se pose la double question de son inscription dans l'histoire américaine et dans la géographie américaine. D'où l'intérêt de ce road trip que vous faites. Les réponses sont assez différentes en fonction du lieu où vit l'écrivain. Ça transpire dans les écrits, le lieu.
Mais il y a des réponses complètement différentes. Par exemple, Joseph Boyden, qui est un écrivain canadien d'ascendance indienne, lui, il vit à la Nouvelle-Orléans. Et il ne peut écrire, il n'écrit que sur le Canada. Et toutes ces histoires se situent dans les tribus indiennes du Canada, du nord de l'est du Canada. Pour ça, il doit vivre loin de son pays pour le regarder de loin et pour avoir le recul nécessaire. C'est pas le seul d'ailleurs. James Lee Burke, qui n'écrit quasiment que sur la Louisiane. Enfin, c'est pas vrai, il écrit aussi un peu sur le Montana, mais ses histoires, en tout cas les histoires que moi je préfère, sont toutes situées dans une Louisiane vénéneuse et vachement séduisante. Bon, lui, il vit dans le Montana, ce qui est quand même n'a absolument rien à voir et est extrêmement loin. Donc voilà. Ou d'autres, au contraire, comme George Pelecanos, qui écrit sur Washington, uniquement sur Washington, mais lui, il vit encore dans le quartier de son enfance, un quartier qu'il connaît par cœur, et il connaît la ville comme sa poche, et c'est de là que naissent ces histoires.
Et Bing, le bostonien Dennis Lehane, c'est à Santa Monica que vous allez l'interviewer en Californie.
Oui, exactement. Ça, c'était dommage. Moi, j'avais très envie de le voir à Boston, mais maintenant, il travaille pour Hollywood et il fait des scénarios à la chaîne. Enfin, pas à la chaîne, mais il en fait beaucoup, beaucoup. Et il s'est effectivement installé à Santa Monica, mais il hésite à rentrer, voilà.
Enfin. Et il parle très bien de la prohibition, notamment de Boston, de toute cette époque-là, qui est l'époque reine de son univers romanesque.
Oui, exactement.
La prohibition, c'est fantastique, il dit. Hein.
C'était un moment. Il dit que c'est sexy.
C'est sexy, c'est vrai. Exactement. Ouais, ouais. Photographier l'Amérique, c'est une expérience particulière, Guillaume Binet.
Photographier l'Amérique, ce qui est très difficile, d'abord, c'est de. Beaucoup de gens l'ont fait et extrêmement bien, et que les États-Unis véhiculent énormément de clichés. Et ce qui était assez difficile dans cette notion de road trip, c'est qu'il fallait emmener les gens. Enfin, je les mettre avec nous dans le camping-car, avec nos enfants finalement.
Ah bah, on voit les doigts de pied de Pauline.
On voit les doigts de pied de Pauline
sur le pare-brise.
Exactement.
Hein, il faut le dire.
Il faut le dire. On voit le rétroviseur du camping-car assez fréquemment. Il fallait qu'il y ait ce genre de gimmick qui revienne pour qu'on soit sur la route, qu'on essaye d'entraîner les gens sur la route. Aussi, quelques exercices de style. Le pont de Brooklyn à New York, on l'a traversé déjà suffisamment et il fallait les montrer. Et aussi éviter des clichés, essayer de coller à ce qu'on découvre, parce que si on a visité les États-Unis à travers le regard des écrivains, c'était pour découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Nous, on connaissait New York, Los Angeles, des superbes villes, mais qui sont un peu en dehors, en tout cas, du trajet qu'on a pu faire, qui est une Amérique assez moyenne.
Et vous êtes tombé sur de l'inédit en termes visuels, parce qu'on a souvent l'impression de connaître très bien ce pays à travers le cinéma, effectivement, à travers la littérature, mais aussi à travers la publicité, à travers toute une iconographie ultra dominante. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « qu'est-ce que c'est que ce pays ?» Totalement inconnu et exotique.
Totalement inconnu, c'est quand on croise ces paysages qu'on connaît par cœur, qui sont ceux du Texas ou qui sont ceux de Floride, qu'on se rend compte que tout ce qu'on vient de voir d'extraordinaire était fantastique. Il faut voir que ce sont des paysages qui sont grandioses. D'ouvrir la porte et de faire courir les gamins au milieu des ours et de leur dire attention aux ours. Voilà, c'est un peu ce rapport. Il faut se rendre compte qu'on a vécu. Enfin, moi, je coupais du bois le matin pour faire le petit-déj. Donc on n'était pas. On débarquait pas comme ça devant un paysage qui nous sautait aux yeux. Ce sont des paysages qui évoluent. Et c'est vrai que les chutes du Niagara gelées, moi, ce n'est pas une image que je connaissais. Mais par contre, on connaît les chutes du Niagara normales. Voilà.
Donc, Pauline Guéna, vous avez eu l'idée d'aller faire un petit coucou à Martin Winkler, qui, jusqu'à preuve du contraire, est citoyen français.
Oui, il a demandé la nationalité. J'avais lu quelque part qu'il comptait demander la nationalité canadienne.
Il vit là-bas,
il
est au Canada.
Il vit là-bas, il s'est installé à Montréal.
C'est très intéressant, lui dit « j'ai toujours rêvé d'être un écrivain américain ». Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour lui, mais en tout cas, il y va direct.
Oui, et puis il a quand même ça d'assez typiquement américain. Il est très éclectique, il s'intéresse à plein de choses, à la série, à l'univers des séries, etc. Il est médecin et écrivain, enfin je ne sais pas, j'étais très intéressée par cette personnalité, et c'est ça les États-Unis quand même, c'est des gens qui s'y installent et qui décident d'y vivre à un moment ou à un autre, donc voilà, c'était un nouvel Américain, mais c'était un Américain quand même, et effectivement il demande
la nationalité parce qu'il s'y sent particulièrement bien, le voyage entre les deux langues, il le décrit aussi magnifiquement. Est-ce que vous avez trouvé quelques-unes des réponses que vous étiez allé chercher en tant que romancière et écrivaine là?
Mais en fait je crois que oui. Et je crois que oui, et je pense que c'est vrai pour l'écriture, mais pas uniquement. C'était un voyage très inspirant parce que c'était rencontrer des gens qui se dédient avec force et conviction à ce qu'ils ont décidé de faire dans la vie. Et en fait, c'est assez génial. Moi, je suis revenue gonflée d'énergie, mais j'avais l'impression que ça pouvait marcher pour n'importe quelle passion. Pas forcément un métier, mais pour n'importe quelle passion. Ils ont une façon de s'impliquer totalement dans ce qu'ils font qui m'a semblé être en soi une réponse.
Transposable en France ?
Oui, sûrement. Oui.
40 000 kilomètres en France, je ne sais pas combien de fois il faut faire le tour du pays, mais...
transportable partout. Ce qui était très important, c'est que ça se passe hors du cadre de la promotion. Donc, aucun des écrivains qu'on a rencontrés n'était là pour parler d'un livre. Donc, c'était une recherche sur l'acte de création, l'acte d'écriture, etc. Et donc,
c'est étonnant quand même comment ils vous ont reçu. Les entretiens sont très longs, très fouillés, très généreux.
Ils ont joué le jeu complètement, ouais.
Mais parce qu'ils avaient... envie ou qu'on les interroge peu, à votre avis, de la manière dont vous le faites ?
Oui, de la manière dont on l'a fait, je pense qu'on les interroge peu comme ça. C'est des gens qui sont habitués à la promotion. Les tours qu'ils font à la sortie de leurs livres sont vraiment épuisants et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. En revanche, s'asseoir tranquillement et parler de l'écriture, je pense qu'on le fait peu, ils le font peu.
Eh bien, merci à tous les deux. Bonne réinstallation en France. Merci. Pauline Guéna, Guillaume Binet, pour ce très beau livre. Je ne sais pas trop comment le qualifier parce que c'est un road trip littéraire, familial, photographique et un très beau panorama de ce qu'est la littérature américaine contemporaine. On est dans un mois du côté de Noël. Ça fait un très beau cadeau de mon point de vue. C'est publié en tout cas chez Robert Laffont. Eh bien, à suivre l'inverse, les coulisses d'un Américain à Paris avec Stéphane Capron, Bob Moses. Il est 18h32 et vous avez tout à fait raison d'écouter Inter. Sur Inter à Ain't Gonna Be The First To Cry. Il est 18h35 et on poursuit notre balade franco-américaine.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Avec une grande première demain à Paris, ce sera au Théâtre du Châtelet, la création de la version scénique du film Un Américain à Paris sur une musique de George Gershwin. Le film de Vincente Minnelli, sorti en 1951 avec Gene Kelly et Leslie Caron, avait obtenu 6 Oscars mais n'avait jamais été présenté sur une scène de théâtre. Bonsoir Stéphane Caron.
Bonsoir Nicolas.
C'est chose faite maintenant grâce à cette production franco-américaine qui ensuite sera à l'affiche à Broadway en mars 2015. Et tout cela, on le doit au directeur du Châtelet, Jean-Luc Choplin, qui vous a ouvert les coulisses de son théâtre.
Et comme un grand guide protecteur, Jean-Luc Choplin, il est au petit soin avec tous les membres de cette équipe franco-américaine, très excité, je peux vous l'assurer, à l'idée de créer cette grande première demain soir. Car à partir de demain, Un Américain à Paris ne sera plus seulement un film oscarisé, mais ce sera aussi une comédie musicale sur scène. Et ça, on le doit vraiment à l'abnégation de Jean-Luc Choplin.
Il n'y avait pas eu d'adaptation. C'est un film. Ça n'avait jamais été monté en spectacle scénique. Il y avait eu quelques petites idées, tentatives, mais jamais ça n'avait abouti. Rêve merveilleux pour un directeur de théâtre, aller demander au Gershwin les droits de le faire en spectacle scénique.
Alors les premières répétitions ont eu lieu à New York et l'équipe de 70 personnes dont 34 danseurs et chanteurs ont pris leur marque au début du mois à Paris. C'est une véritable ruche sur scène.
On est dans les coulisses du théâtre où on est en train de s'affairer sur les derniers éléments du décor.
Les décors ont été fabriqués où ?
Tous les décors de la production d'un Américain à Paris ont été fabriqués à Chevilly-la-Rue. Et tous les costumes au quatrième étage dans le théâtre du Châtelet. Et par exemple ici où ils se préparent tous les accessoires du spectacle.
Je vois qu'il y a énormément de choses sur les tables.
Oui, alors on met en place les accessoires pour tout le spectacle.
Vous avez des journaux, alors, vous avez le Figaro de
1945.
Alors c'était quoi les nouvelles du jour ? On parle de Gaulle forcément.
Le général de Gaulle et M. Bidault exposent au Conseil des ministres le résultat des conversations qu'ils ont eues à Washington et à Ottawa.
Alors pénétrer dans les coulisses du Châtelet, c'est aussi s'apercevoir à quel point ce théâtre, c'est une formidable maison de production avec des ateliers à tous les étages.
Alors ici vous avez un travail absolument extraordinaire, c'est... La confection, l'assemblage de toutes les perruques. Je ne sais pas comment on appelle ça, des bigoudis. Ou... Alors, ce sont des perruques en cheveux naturels qui sont assemblées ici par cet atelier extraordinaire de fabrication. Voilà, donc à l'endroit où ont été fabriqués tous les costumes de ce beau spectacle, par cet atelier de couture très exceptionnel que nous avons, vraiment un atelier de haute couture qui peut tout faire.
Et puis Stéphane, vous avez pu vous rendre compte de l'émulation au sein des équipes du Châtelet, donc pour cette première mondiale, cet Américain à Paris version musical.
Ah oui, ils sont tous fiers. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fierté d'avoir exporté à Broadway le savoir-faire français. Valérie Majoubi, elle est la chef de l'atelier couture. Elle est allée à New York pour faire les dernières retouches des costumes avec les artistes.
On a une danseuse qui a pleuré quand elle s'est vue dans ses costumes. Elle était tellement contente. Elle était complètement... peut-être un peu émotive, mais c'est vrai qu'elle a pleuré.
Alors les costumes ajustés, c'est maintenant au tour de Sylvie Hérault d'entrer en scène, c'est la chef habilleuse. Et avec son équipe, et notamment Pascal Minetti, elles vont orchestrer les changements de costumes sur scène.
Je n'aime pas employer le mot famille, mais on travaille vraiment tous ensemble. Jusqu'au dernier moment, allez, on y va. Et que ça soit vraiment la magie, c'est la magie du spectacle.
Alors là, vous vous trouvez dans la pièce où on prépare les costumes. Aussi bien les costumes qui vont être mis en loge pour la première entrée des artistes, que les costumes qui seront descendus sur les plateaux pour les changements rapides, puisque tous les changements vont avoir lieu au plateau. Aucun changement ne se fera en loge.
Je vous propose maintenant de redescendre sur le plateau pour rencontrer le metteur en scène, le chorégraphe américain Christopher Weldon.
Nous sommes vraiment très chanceux d'être les premiers à créer cette comédie musicale sur scène. Vous pouvez voir des vues très reconnaissables de Paris dans le décor. Ça a été d'ailleurs le plus grand défi de ce spectacle, faire que cette ville magnifique prenne vie sur scène.
Alors, parlons argent. Mmh. Pour monter cette super production, le Châtelet s'est associé à deux producteurs américains qui ont eu la même idée que Jean-Luc Chopelin. Et c'est la famille Gershwin qui a opéré le mariage, ce qui a donné naissance, Stéphane, à un montage financier totalement inédit en France.
Ah oui, c'est un partenariat public-privé, comme on dit traditionnellement, entre un théâtre subventionné français et des producteurs américains privés. C'est du jamais vu. Et si c'est un succès à Broadway, eh bien, cela va assurer des retombées financières importantes pour le Châtelet.
Oui, on peut créer ce spectacle à Paris. Oui, on prend en charge 50% de la production, mais on veut être associé au développement commercial, à la possibilité pour ce spectacle, et on croise les doigts et on l'espère, d'être un énorme succès. Vous savez, à Broadway, ça peut durer des années. Donc c'est une association formidable qui permettra au Châtelet chaque année d'avoir un retour de royalty, on espère pendant, allez, disons-le, 10 ans, des ressources, et cela permettra d'investir les résultats de Broadway sur les différentes productions du théâtre dans le futur.
À Paris, à partir de demain soir au Châtelet et jusqu'au 4 janvier. Sur franceinter.fr, on peut visualiser la version numérique de votre reportage avec les photos de Christophe Abramowitz, le photographe de Radio France. Merci Stéphane Capron. Changement de monde et d'univers partout ailleurs. Bonsoir Eric Balmire.
Bonsoir Nicolas.
Le groupe djihadiste État islamique a fait littéralement disparaître du radar médiatique le conflit syrien.
Depuis des mois, la couverture médiatique est réduite aux agissements du groupe Daesh. Les lignes de front de l'organisation islamiste, son mode de fonctionnement, ses communications de propagande, ses décapitations. Et aujourd'hui, ces djihadistes européens. Les Français trouvent ces djihadistes français, les Allemands leurs djihadistes allemands, ainsi de suite. Mais l'information sur la nature du conflit, même en Syrie. Où en sommes-nous ? Alors me direz-vous, il y a bien entendu Radio Rosanna qui continue d'émettre une info faite par des Syriens en direction des Syriens. Mais nous, Occidentaux, sommes-nous plutôt à la peine sur ce registre?
Et dans ce conflit syrien, Eric, qui s'enlise, qui s'éternise, on a effectivement le sentiment que tout a été dit. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les rédactions éprouveraient des difficultés à évoquer le conflit, sans compter le danger même du terrain déserté par les reporters occidentaux.
Parce que ce conflit est aussi d'une terrible complexité. Le journaliste photographe franco-syrien Amar Abderrabo retourne régulièrement à Alep, témoins directs de scènes d'horreur qui ne font même plus l'objet d'une brève dans les journaux.
On a parlé hier de 18 décapitations, je crois. Le même jour, il y a une centaine de morts sous les bombardements avec les fameux barils, qui sont des barils d'explosifs lâchés par des hélicoptères, dans une ville comme Alep. Il peut y avoir dans la journée 100, peut-être 200 morts. Et de cela, on ne parle pas, parce qu'il n'y a pas d'image spectaculaire, il n'y a pas de film, il n'y a pas de propagande de Daesh derrière. Bien sûr, je suis triste que l'on parle de la Syrie que comme ça. Je reconnais en tant que journaliste que c'est difficile de faire abstraction aussi de cet aspect des choses.
Dans la couverture d'un conflit, il y a deux alternatives. La version musclée, les lignes de front, les kalachnikovs, les stratégies guerrières, les cartes, les villes qui tombent. Ou la position proche des victimes, raconter ce que vivent les civils. C'est le choix d'Amar Abderrabo qui expose des photos de sa ville Alep, prises ces derniers mois. Il a intitulé cette série d'une phrase. Alep s'écrit A, L féminin au pluriel, E masculin au pluriel, P. La paix, tout simplement. A-L-E-P. Amar.
Dans ces villes-là, où il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants, même après les exodes, la vie continue. On se pose parfois la question, on se dit, est-ce qu'il y a des gens? Que font-ils? Comment vivent-ils? Est-ce qu'il y a encore des écoles? Est-ce qu'il y a encore des boulangeries? Est-ce qu'il y a encore des boucheries? Enfin, je ne sais pas. Moi, souvent, à Paris, c'est les questions qu'on me pose. Mes amis me demandent rarement qui a pris telle ou telle ville. Mais il me demande comment les gens se chauffent, comment les gens mangent, comment les gens boivent, etc. On ne peut pas réduire l'histoire syrienne à des camps de réfugiés, à des barbus qui décapitent.
ces photos d'Amar Amdrabo, les rédactions n'en voulaient pas parce qu'elles ne portaient pas l'horreur démonstrative. Et pourtant, rien de plus informatif que la vie quand elle côtoie les scènes de chaos. Un exemple devant ce cliché dans l'exposition qui prend une partie du mur de la galerie.
Nous sommes dans le quartier de Salah ed-Din, ou Saladin, si on doit franciser le nom. C'est vers l'ouest, le sud-ouest d'Alep. Et c'est un quartier qui est vraiment un peu enclavé, il a plusieurs fronts. Et là, nous sommes face à une ligne de front, donc on est dans une rue, il y a des immeubles à droite et à gauche, ou ce qui reste d'immeubles, parce qu'il y a beaucoup de débris, il y a beaucoup de dégâts, il y a des balcons éventrés, enfin, on est un peu dans l'intérieur de certains appartements. Et au milieu, il y a la rue, et l'horizon, enfin, le bout de la rue est bouché par des bâches ou des tentures ou des tapis, enfin tous cousus les uns aux autres et qui forment un patchwork assez haut, peut-être une quinzaine de mètres de hauteur, et qui ferment complètement la rue, pour protéger la rue des snipers qui sont de l'autre côté. Alors c'est à la fois une protection fragile et ingénieuse, et c'est dur à dire, mais elle est belle aussi. Il y a une beauté qui se dégage de cette protection en patchwork comme ça, qui fait un peu penser peut-être à la réalité syrienne, qui est une réalité de patchwork de plusieurs communautés, qui fait aussi penser à l'actualité syrienne, puisque cet horizon bouché, cette voie sans issue, un peu, quoi, ce cul-de-sac, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment s'en sortir, est-ce qu'on peut le casser, est-ce qu'on peut faire demi-tour, je ne sais pas, enfin, on peut se poser plein de questions. Et puis, détail très important dans la photo, au milieu de la rue, il y a un motard, tout seul, comme ça, qui va vers cette ligne de front, on le voit de dos, et qui est un peu le coup de chance, parce que sans le motard, la photo aurait beaucoup moins de sens. Avec le motard, on a à la fois l'échelle de la rue, et en même temps, on a aussi une personnification de l'état de la Syrie. Ce motard, c'est un Syrien qui va vers l'inconnu.
On n'a pas les bruits, évidemment, puisque c'est une photo. Quelle était l'atmosphère de cette rue quand vous avez pris cette photo?
Comme c'est des quartiers qui étaient assez peuplés, c'est très surprenant de passer dans un quartier qu'on sent très populaire, avec une grande densité populaire, et puis finalement c'est vide, il n'y a personne, il y a le bruit des vents dans les rideaux ou dans les balcons, de temps en temps une petite altercation, un missile qui part ou un autre qui arrive, etc. Et puis le silence à nouveau.
Amar Amdrabo, il y a aussi beaucoup d'émotions chez ce franco-syrien qui travaille, certes, mais on sent aussi à quel point la vie de son pays compte énormément dans son travail. Alep s'écrit A, elle, vous les femmes, eux, vous les hommes, la paix. Galerie Europia à Paris, c'est jusqu'au 2 décembre.
Merci Éric Valmire. Il est 18h47. Dans quelques instants, grâce à Dominique André, on sera du côté du Maroc.
Place qu'ils ont prennent, la 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 place qu'ils ont prennent, la
Les Marocains de Oba Oba Spirit sur Inter.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et précisément la fabrique du Nouveau Monde de Dominique André sur le sommet de l'entrepreneuriat au Maroc. Il se termine ce soir, ce sommet, et après les printemps arabes, priorité aux femmes marocaines.
Oui, c'est incontestable, les temps changent au Maroc et même s'il reste encore beaucoup de choses à faire en faveur des femmes, on peut quand même constater qu'il y a une quinzaine d'années, quand elles se sont organisées dans ce réseau 100% féminin, elles n'étaient qu'une poignée. Mais aujourd'hui, donc la FEM, cette puissante association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, rassemble 600 patronnes qui pèsent lourd, puisqu'elle génère plus de 50 000 emplois dans le pays. Et si on s'intéresse au nombre de femmes chefs d'entreprise de toute taille, elles sont plus de 100 000. Alors après Casablanca, la capitale économique, elles étendent leur influence au reste du pays, à Rabat, à Tanger. C'est vraiment une fabrique des patronnes qui a une priorité assez nouvelle hein, depuis quelques années, c'est d'aider et accompagner les plus jeunes, ces jeunes femmes qui seront un jour les futures patronnes de l'économie marocaine. Je vous propose de rencontrer Azma Morin Azouzi, qui est la vice-présidente de la FEM.
Ce sont des jeunes femmes qui ont généralement moins de 30 ans, qui ont une idée de projet et qui contactent la FEM. Et donc, on va les suivre au niveau de l'étude de leur projet, de l'élaboration de leur business plan. On va leur donner des formations pour améliorer leurs compétences managériales parce qu'elles peuvent être ingénieures et donc elles ont vraiment besoin de petites formations complémentaires qui les boostent. Et puis, nous mettons aussi à leur disposition des experts qui peuvent, sur des questions spécifiques, essayer de les débloquer, de les aider. C'est leur faire profiter d'un réseau de femmes entrepreneurs et ça, quand même, c'est notre force.
Ce sont des femmes qui ont fait des études.
Nous nous sommes spécialisés quand même dans des projets qui sont portés par des femmes qui ont un niveau d'études assez supérieur. C'est minimum bac plus 2 et c'est généralement bac plus 4, bac plus 5. Donc c'est des femmes qui sont diplômées, qu'on pousse à l'innovation. D'ailleurs, c'est l'un des critères de sélection. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont dans l'artisanat, qui sont dans d'autres secteurs, mais il y a d'autres associations qui sont plus spécialisées et qui vont les prendre en charge. Nous, nous restons sur une entreprise qu'on va essayer de structurer, qui va monter en puissance. Et pour ça, il nous faut quand même une femme chef d'entreprise qui a du bagage et qui peut vraiment avancer.
Quand vous parlez d'innovation, dans quel secteur ?
D'abord, nous sommes dans les services. Par exemple, je prends l'exemple d'une jeune femme qui s'est installée sur la niche du voyage en ligne au niveau du monde rural, le tourisme rural, où elle a contacté plein d'opérateurs à l'étranger pour essayer de vendre son idée et qui marche. C'est vrai que ça bouge depuis ces dernières années. On prend notre destin en main, on essaye de faire des choses et puis voilà, on essaye d'aider le Maroc au niveau de son développement économique.
Il baisse beaucoup et moi je me...
Voilà, c'était la belle voix d'Anthony Bélanger qui était déjà en train de s'échauffer pour sa chronique La fin de la fabrique du Nouveau Monde, donc de Dominique André.
Qu'allez-vous dire ?
Un pour tous, tous pour un.
Merci Anthony Bélanger.
Popo, attendez, vous allez beaucoup trop vite.
Plutôt heureux maintenant ?
Eh oui, il a bossé quand même, hein.
Et voilà, 18h54, une histoire dans le monde, comme tous les vendredis. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On revient aux États-Unis avec donc cette régularisation massive de sans-papiers annoncée par Barack Obama.
Et oui, une opération qui se résume en chiffres. 5 millions de clandestins vont être régularisés en une seule phrase. Et qui se résume bien sûr en une seule phrase. Vous pouvez maintenant sortir de l'ombre. C'est le moment clé d'un discours du président américain qualifié d'historique par la presse. Alors pour vous donner une idée de l'importance de cette décision, jamais dans l'histoire l'histoire moderne des États-Unis, on avait régularisé autant de personnes en une seule fois. La dernière fois, c'était en 1986. Le président était américain, c'était Ronald Reagan, et il avait sorti de Londres de la même façon 3 millions de clandestins, on dirait presque seulement. Quant aux critères de régularisation, ils sont simples. 4 millions de parents clandestins d'enfants nés américains obtiendront un permis de séjour et ou de travail, et le million restant sont entre autres des clandestins entrés mineurs aux États-Unis.
Et est-ce qu'il y a, Anthony, des conditions pour obtenir la fameuse carte verte?
Oui, bien sûr. Il faut par exemple avoir un casier judiciaire vierge et vivre aux États-Unis depuis plus de 5 ans. Il y a aussi une condition étonnante, figurez-vous. Il faudra payer 5 années d'arriéré d'impôts sur le revenu et d'autres d'ailleurs que les clandestins n'ont pas pu payer parce qu'ils sont clandestins, justement. Et par ailleurs, il faut souligner que cela ne réglera pas entièrement le problème. Il y a aux États-Unis 11 millions de clandestins. C'est donc un peu moins de la moitié d'entre eux qui auront d'ici la fin de l'année, vous savez, le fameux numéro de sécurité sociale, puisqu'aux États-Unis, où il n'y a pas de carte d'identité, c'est le seul moyen de prouver son existence légale. Par ailleurs, cette décision, que je le rappelle, est strictement présidentielle, règle en partie, vous l'avez compris, le problème. Un problème qui traîne depuis plus de 10 ans. On ne s'en souvient plus, mais l'un des plus fervents partisans de la régularisation massive des clandestins était George Bush. Il attendait plusieurs fois de faire passer une loi au moins aussi généreuse que celle-là, sans jamais y parvenir.
Alors, quels sont les arguments de Barack Obama pour pouvoir faire accepter cette décision aujourd'hui?
Oui, c'est vrai que les Américains sont plutôt en fait opposés à une régularisation massive, 38 pour, 48 contre. Du coup, convaincre l'Amérique du bien fondé de cette politique, c'est ce que Barack Obama va faire toute cette semaine. Ses arguments sont à la fois émotionnels et pragmatiques. Lorsqu'il explique par exemple qu'il est impossible d'expulser concrètement des millions de personnes et qu'en plus il ajoute « mais ce n'est pas ce que nous sommes, ce qu'est l'Amérique, on connaît leur récit national, c'est une nation d'immigrés qui sont tous venus chercher une terre de liberté et de meilleures opportunités pour eux-mêmes et leurs enfants ». Ça donne dans la bouche de Barack Obama « l'immigration est un énorme avantage pour les États-Unis, elle fait de nous une nation plus jeune, plus dynamique, plus entreprenante et donc plus riche. Et du coup, je me prends à rêver qu'un autre président, d'un autre pays tout autant forgé par l'immigration que les États-Unis fasse le même genre de discours avec la même émotion que Barack Obama. Ce pays, vous l'avez compris, c'est la France, qui est le seul pays européen à partager la même structure migratoire que les États-Unis, à savoir qu'un quart des Français ont, comme les Américains, au moins un grand-parent né à l'étranger.
Anthony Bélanger, merci. Et Mathieu Aron, bonsoir.
Bonsoir.
Secret d'info, tous les vendredis, c'est l'émission d'investigation des rédactions de Radio France. Le sujet aujourd'hui?
Eh bien, nous vous proposons ce soir une enquête sur les repentis fiscaux. Vous n'avez pas de compte en Suisse, vous, Nicolas?
Absolument pas.
Bon, voilà une bonne chose. Eh bien, sachez que depuis l'affaire Cahuzac, 33 000 personnes qui avaient des comptes à l'étranger ont accepté de se dénoncer pour se mettre en règle avec la loi. Alors cela dit, c'est plutôt une bonne opération parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'arrivée, cela fait payer moins d'impôts que si on avait été en règle dès le départ. Et puis, on s'est aussi aperçu qu'il était, malgré tous les discours politiques, toujours aussi facile de se créer sa petite société offshore.
Merci Mathieu Aron, rendez-vous donc vers 19h20. Un mot pour remercier l'équipe d'Un jour dans le monde, Éric Lenné, Sarah Masson, Djoub pour la programmation musicale. Et pour vous donner quelques rendez-vous lundi 24 novembre sur France Inter, Bruno Le Maire sera à 8h20 l'invité de Patrick Cohen. Il est député UMP de l'Eure, candidat à la présidence de l'UMP. Peut-on se passer de sa banque, Mathieu Aron? C'est la question que posera Guillaume Erner dans Service Police. Dans Service Public de 10h à 11h sur Inter. Un jour dans le monde, à 18h15, nous serons avec Bertrand Badie qui publie Le temps des humiliés chez Odile Jacob.